les chrétiens et dont on commence à manger les chrétiens. Et donc, cette brave femme, elle était effectivement en pleine romanité. Dans tout Rome, à Rome, on sait que les lions, de temps en temps, mangeaient les chrétiens, et pourquoi pas à Lille. Et c'est ainsi qu'elle transmettait à sa fille l'idée que les Limois étaient les descendants des Romains, et avaient les mêmes coutumes, etc., pourquoi pas. Et la définition de la romanité, vous l'avez en haut, tout à fait là, sous le plan, ensemble des attitudes des mœurs, et des caractères des Romains. Mais il y a un problème, c'est quel besoin avons-nous de nous référer aux Romains? Pourquoi se référer aux Romains? Il y a bien sûr une question de mémoire. Là, je vais vous prendre un texte, une phrase d'un professeur du lycée d'Odède dans l'entre-deux-guerres, Bernard Lazarus, qui disait « L'Antiquité vivant chez nous, c'est presque pour nous une connaissance de famille. » Là, vous avez la définition d'une mémoire familiale, de père en fils, etc. On se transmet donc cet héritage des ancêtres. Cette définition de la mémoire, je pourrais prendre celle de Montaigne. La mémoire est l'étui de la science. Et on va essayer un petit peu de consacrer cette séance à cette définition, disons, de la mémoire. La mémoire est l'étui de la science. En admettant que l'histoire et les sciences, c'est la science sans doute la plus inexacte de toutes, mais enfin, on la mettra dans le tuyau, on la mettra dans l'étude. Alors, donc, fil conducteur de tout ça, le besoin. Ce besoin a fait apparaître trois types, finalement, de romanité, et vous pouvez remarquer, je n'ai pas mis de date. La première romanité serait une romanité latente, c'est-à-dire cachée, vraiment cachée au plus grand nombre. Mais quelques-uns donc, peuvent entrer en romanité, mais le plus grand nombre ne peut pas s'accouter, passer toute sa vie sans savoir qu'il était dans un lieu romain. Puis la romanité deviendra rayonnante au XVIIIe siècle, avec bien sûr l'appui de la mémoire collective et l'appui de l'histoire, avec notamment les Lumières. Et enfin, elle flamboiera, je ne sais pas si le père existe. Elle sera flamboyante au XIXe siècle, mais ça n'est pas mis de date exprès, parce que pendant qu'elle flamboie, elle est quand même aussi rayonnante pour certains et reste latente pour le plus grand nombre. Donc, premier mouvement, une romanité latente. Eh bien, on va la voir avec. Voilà. On va la voir avec cette image que vous connaissez tous, je pense, ou presque, elle était longtemps à l'hôtel de ville. C'est la gravure tirée de l'ouvrage de Poldo d'Albenas, qui est soit en couleur, soit en noir et blanc. Alors, ça veut dire surtout que c'est en noir et blanc qui est d'ailleurs plus lisible. Vous voyez tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un plan, il ne s'agit pas d'une carte. Si vous voulez vous rendre des arènes au pont du Gard qui apparaît là-bas dans le coin, vous aurez certaines difficultés à y aller avec ce genre de documents, bien sûr. Le Bruno d'Albenas n'a jamais voulu représenter d'une manière IGN la région de Lille, bien sûr. Il a voulu faire le vrai portrait. Là, vous n'arrivez pas à lire, je vous le dis, le vrai portrait de la ville de Nîmes. Et dans la gravure en couleur, il y a le titre qui est Nemosus Nîmes Antiquissima. Il ne faut pas que je dise une bêtise, non, c'est pas Antiquissima. Nemosus Nîmes, je ne trouve pas le texte, on n'arrive pas à le lire. Ouais. Nemosus Nîmes, Civitas Narbonensis Galliae Vetustissima. Alors, là, dans ce cartouche, il est tout à fait là. Pourquoi, alors, Civitas, vraiment, c'est ça le plus important. C'est pas simplement la ville. La ville en latin, c'est urbs. Civitas, ça a une connotation politique, la cité. Donc, c'est la capitale ici. Et elle est de la Galliae Narbonensis, c'est-à-dire, elle est de la Gaule Narbonnaise, la Narbonnaise. Province narbonnaise, il fait référence à la province romaine, mais pas du tout référence à la France. On le situe dans la Narbonnaise. et vétustissima, qui est la qualité des qualités, plus c'est ancien, plus c'est vieux, plus c'est frais, plus c'est sûr, plus on est en présence de quelque chose de majestueux. Ainsi, par exemple, j'ai trouvé dans un manuscrit de Carré d'art, manuscrit donc certainement de Séguier. Si tout en croit l'histoire fabuleuse, elle doit sa fondation à Némosus, fils d'Hercule de Libye. Je sais au passage qu'il y a au moins 9 personnes qui s'appellent Hercule. On s'imagine toujours que c'est Hercule qui fait ses 12 travaux. En fait, il y a 9 personnages qui s'appellent Hercule, au moins d'ailleurs, dans la mythologie. Il y aurait 3338 ans. Elle serait plus ancienne que Rome de 590 ans. Là, on est sûr, n'est-ce pas? On a vraiment la civilisation avec la grande S, puisque nous sommes plus âgés que Rome, donc plus vraie, plus majestueuse, etc. Alors, si l'on regarde plus en détail, en partant notamment du vrai portrait, alors on voit bien sûr la tourmaille, et on voit également qu'il y a quelques éléments en moi, et c'est pour ça que je dis une réalité latente. Parce qu'on va reconnaître bien sûr le Capitole, c'est-à-dire ce qu'on appelle la maison carrée. Le Capitole, vous savez, c'est équivalent à l'hôtel de ville finalement. C'est là où délibéraient les Capitouls, c'est-à-dire les consuls, pensez au Capitole de Toulouse. Et on a également, alors on peut faire d'autres détails, par exemple, là vous avez le site de la fontaine, qui n'est pas du tout comme maintenant. La fontaine, vous l'avez là-haut, vous avez donc ce cours d'eau avec cette grande vasque et des moulins, puisque vous savez que le ruisseau de la fontaine, ça fait alimenter la production donc, des moulins. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'il y a à côté de la fontaine. Vous avez on voit une sorte d'église avec un clocher. En fait, il s'agit d'un monastère. Et c'est pour ça d'ailleurs que le temple de Dan est resté jusqu'à nos jours, c'est qu'il avait été occupé pendant le Moyen Âge par les dames bénédictines, les dames de la Font, et donc il servait, donc il n'était pas détruit. Par contre, malheureusement, pendant les guerres de religion, évidemment, il a été assez endommagé. Alors, donc, un mois peut très bien passer devant ce bâtiment, en disant, tiens, c'est une église, ou tiens, c'est un monastère. Ça ne lui fait pas à l'idée de dire, c'est la. C'est un temple d'un, c'est bien un temple, il y a un trimalien, vous savez. Enfin, c'est un monument qui n'est absolument pas. Si l'on regarde maintenant les arènes, que vous connaissez tous, c'est exactement ce que les gens ne voyaient pas à l'époque. En 1560, ils ne voyaient pas du tout ce genre de choses-là. Les arènes, vous savez, étaient occupées, c'est un véritable quartier, c'est un des quartiers de Nîmes. J'en ai porté témoin un texte du XVIIe siècle où. Un voyageur dit à sa compagne, Jupot lui dit que nous étions en Rennes, elle soutint toujours qu'elle ne voyait que des maisons, comme dans les autres quartiers de la ville. Regardez là, ce n'est pas du tout ce que pouvait voir un contemporain de Paulo d'Adenas. En fait, le graveur, bien sûr, les arènes étaient détruites en partie, et le graveur a repris l'image du Colisée. Alors, vous connaissez plutôt la forme du Colisée. Qui est lutté quand même par la tour Pinatière qui appartenait donc à la routine de la ville. Mais donc il a représenté le Colisée, pourquoi? Pour montrer que c'était bien une Rome, que c'était bien que l'île était bien une ville à caractère romain. Alors, donc cette romanité et cette mémoire de Rome, elle ne court finalement que dans un tout petit groupe. Ce qu'on appelle à cette époque les antiquaires. Ce sont souvent des juristes, sont toujours des juristes. Peut-être qu'à la fin du XVIIe siècle, le cercle va s'élargir, par exemple, à certains membres du clergé. Je pense par exemple à l'évêque Esprit Fléchier, qui avait écrit sur Rome. Et sinon, ce sont tous des juristes, ou presque. Tant qu'ils étaient en vie, c'était des protestants, jusqu'à ce qu'il y ait, bien sûr, la révélation divine, mais sinon, donc des juristes au 16e, au 17e siècle, puisqu'ils sont formés au latin, ils sont formés à l'écriture de texte, ils parlent couramment en latin, et non seulement en latin, mais en grec et hébreu, la plupart du temps. Et donc, c'est un peu cercle, finalement. Alors, il collectionne avant tout. Ce ne sont pas d'histoire, n'existe pas à cette époque. Hein. Il ne faut pas parler d'historien et d'histoire, de méthode historique à cette époque, du 16e, 17e, ça n'existe pas. Ce sont des collectionneurs. Ils collectionnent notamment des sites funéraires ou des débris de statues. On colle, par exemple, on a. On colle dans une des portes de la ville, on colle des cipes en guise de bienvenue pour les voyageurs, notamment François Ier, vous savez, est arrivé accueilli par ces cipes de la porte de la couronne, et face à sa monumentale d'ailleurs au consul en disant que vous entendez très mal votre patrimoine. Et donc François Ier est en quelque sorte le père, en quelque sorte, de la modernité nîmoise. Donc ce sont des gens qui sont avant tout des collectionneurs qui restent un petit peu entre eux, hein, et qui, quand ils écrivent absolument n'importe quel abri, à côté de choses très bien d'ailleurs. Hein. Mais ils sont très superficiels, ils étalent leurs connaissances, ils étalent leur érudition, souvent d'ailleurs d'une manière assez artificielle. Il faut attendre Ménard, hein. Il faut attendre Léon Ménard au XVIIIe siècle pour voir quelqu'un qui va quand même approfondir un petit peu tout ça. Mais moi, Ménard se pose dès le début comme un historien. Hein. Il va écrire une histoire de Lyon. Enfin, j'en rajoute le titre, c'est un titre qui tient au moins de l'Occident. Il écrit une histoire de Lyon, et cette histoire en 6 volumes, ce qu'il faudra exagérer et refaire. Donc, il y a une arme, enfin, vous mettez 6 volumes pour une histoire d'une ville, combien vous prendrez de volumes pour essayer pour faire l'histoire de l'humanité. Alors, Ménard, d'ailleurs, se rend compte qu'il a fait fausse route, finalement, dans son plan, parce qu'au départ, Ménard avait étudié d'une manière très scientifique, d'abord analysant, puis faisant une synthèse. Mais au moment de vouloir faire paraître son cahier de peur, il a repris le style de l'époque, c'est-à-dire du délayage chronologique hein, qui n'en finissait plus. Mais il a écrit un 7e volume, c'est ça qui nous intéresse, un 7e volume sur les antiques et les monuments de la ville de Nîmes. Et il va dire, de toutes les parties que je traite, celle des antiques est la moins négligée. Et dans son introduction, justement sur le volume 7, il écrit Nîmes, et semblable à l'ancienne Rome, renfermant son enceinte les plus magnifiques édifices. La barbarie, le trouble des siècles qui nous ont précédés nous ont privés de ces précieux monuments. Or, au moment où Ménard écrit, les signes de normalité éclatent partout. Hein, rappelez-vous, c'est 1722, même avant, c'est la muse d'Arles, fin 17e. 1722, c'est Herculanum. 1748, je crois, c'est Pompée, j'en ai plus. 1758. Et il y a pendant ce temps, bien sûr, autour de 1750, les fouilles du bassin de la Fontaine. Et de ce bassin, on va extraire énormément de documents, énormément de statuts et d'inscriptions. Ainsi, j'ai relevé au point de vue de l'épigraphie, début du XVIIIe siècle, vous avez 138 inscriptions, et fin du XVIIIe, vous avez 102 nouvelles qui se sont ajoutées à ça. Ça fait donc un corpus de 240 inscriptions. À partir de là, on peut faire une démarche réellement, scientifiquement rigoureuse. Eh bien, ceci va emmener la transformation, et pas complète bien sûr, mais l'apparition d'une romanité réglementée. Là, plus que l'académie qui va être très épisodique, l'académie va simplement fonctionner à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. En fait, le moteur essentiel de la romanité, ça va être Séguier. Séguier, bien sûr, il y a énormément de colloques faits sur Séguier. Alors, le problème, c'est Séguier était-il. Enfin, quels sont les rapports, plutôt, entre Séguier et les Lumières? Séguier vit à l'époque des Lumières, Séguier entretient énormément de rapports avec les gens des Lumières, mais Séguier n'est pas un philosophe, finalement. Hein, c'est pas. On peut le mettre dans le même cas, que Diderot, Napel, etc. Je pense qu'il faudrait lui donner un nom qui existait beaucoup à l'époque, un homme de cabinet. Mais à la différence de ces antiquaires dont je parlais tout à l'heure, cet homme de cabinet ouvre son cabinet au public. Hein. Il va offrir ses des collections, pas seulement des collections latines, d'ailleurs, mais des collections de plantes en pot, des collections des herbiers, etc. etc. Il va ouvrir ses nombreuses collections à la vue du public, et même des gens qui viendront, des voyageurs qui arrivent à Lille, bon, Séguier leur fera visiter sa maison, mais il emmènera ses voyageurs à la porte de la Couronne pour montrer encore d'autres documents biographiques. Donc Séguier est quelqu'un, alors le mot éclairé, on pourrait le dire, mais pas dans le sens philosophique, bien sûr. C'est plutôt l'homme cabinet, hein, comme on entendait au XVIIIe siècle. À côté de ses collections, donc, j'ai dit, il reçoit des visiteurs. Il a dans son tiers, c'est-à-dire dans son agenda, en quelque sorte, il a plus de 1300, non, plus de 1500 visiteurs, 1536 visiteurs, avec des Anglais, des Italiens, etc. Il écrit, il a une très volumineuse correspondance qui est à Carrella, vous savez, et il écrit à beaucoup de gens. En Pologne, il écrit, donc ça dépasse même la surface des pays romanisés. Hein. Et il a, parmi ses correspondants, il a 300 correspondants dans toute l'Europe. En fait, Séguier, ça sent aussi un chercheur qui a payé sa personne, en quelque sorte, on le verra monter sur un échafaudage, prêté par la mairie, en quoi il était courageux, et pour aller voir, bien sûr, pour aller, avec un papier calque, calquer les clous, les menaçants des clous qui soutenaient l'inscription à l'édicace, dans le sens de la maison carrée. Donc, là, on a ici, bien, rapport, en quelque sorte, entre romanité et lumière, et avec ce support un peu pour la romanité que pouvait être les lumières, et en même temps, support pour les lumières de la reliquée, qui est également un rapport. Eh bien, ça se poursuit par le retour à l'antique. Si l'on prend quelqu'un que vous connaissez, ça fait, enfin, vous connaissez bien, ça s'appelle Clérisseau. Clérisseau a été en contact à Rome avec le bibliothécaire du Vatican, Winckelmann. Et Winckelmann avait lancé l'idée qu'il fallait un référent incontestable pour les beaux-arts, pour tout ce qui pouvait être sculpture et architecture et urbanisme. Et donc, Clérisseau va appliquer en quelque sorte les leçons de Winckelmann à Lille. Il écrit dans son introduction: nous allons chercher au loin les débris de l'Antiquité, seule vraie source du beau, hein, seule vraie source du beau, seule, que nous voudrions atteindre. Pourquoi négligerions-nous les monuments de France? Et si l'on regarde les souscripteurs, donc d'abord, son livre est patronné par la famille royale, hein, de Louis XVI. Et parmi ces souscripteurs, on a, sur 78 souscripteurs, on a 7 membres de clergé, 25 de la haute administration et de la noblesse, on peut ajouter à ça 3 fonctionnaires. Vous avez pratiquement la moitié des souscripteurs qui sont de la très haute classe dirigeante de l'époque. Et vous avez parmi ces souscripteurs 11 moines, dont 7 académiciens, mais vous avez également des souscripteurs à l'étranger, les Anglais en particulier. Alors, ceci va être mis en application par quelqu'un d'autre, par un architecte toulousain, c'est Raymond. Raymond, sollicité par la municipalité de Nîmes. Donc cette initiative en est nîmoise. Raymond va établir un plan d'urbanisme nouveau. Je m'en excuse, j'ai pris cette photo du recueil de plans de Marie-Joseph Montaigne qui avait fait ça pour le musée. Et donc, en fait, il est en couleur. Donc, les couleurs, il faudra qu'on les imagine. Raymond, donc, va soumettre un projet d'urbanisme. Vous savez que c'est alors l'époque de l'urbanisme, finalement. Enfin, c'est l'exemple de Chilton, hein, avec un urbaniste français qui s'appelle Enfant. Donc, Raymond fait deux extensions à la ville. La ville, elle veut éclater. Elle veut éclater, elle veut donc faire abattre toutes les murailles, en mêler, faire des boulevards, faire une liaison entre les quartiers, hein, c'était ça l'idée fondamentale des Nîmois, faire une liaison entre les quartiers, et donc, bien sûr, accueillir de nouveaux habitants, une éventuelle croissance au point de vue démographique au XVIIIe siècle. Alors, Raymond va faire deux grandes croissances. D'abord, une ville ouverte à l'ouest, hein, il fait sur son plan, hein, c'est encore réalisé. Une ville nouvelle à l'ouest dans le prolongement déjà La Fontaine, qui a été bien sûr complètement réorganisé par Maréchal. Donc, c'est autour de ce qui est actuellement le cours Jean-Jaurès, hein, la rue Jean-Jaurès. Donc, une ville nouvelle, ouest de l'île, puis une extension au sud, ce qui fait que les arènes, que Raymond veut voir dégager, que les municipaux veulent dégager, 1785. Les arènes vont se trouver au centre de l'agglomération, au centre de la ville. Hein, et alors, par contre, vous voyez que les arènes sont dégagées sur le gros plan, Raymond les prévoit complètement dégagées. Et vous voyez que Raymond, par contre, fait disparaître l'esplanade. L'esplanade qui était d'ailleurs très mal vue, mais enfin, l'esplanade, c'était la place commune où se réunissaient les Niçois. Et vous voyez que c'était, en fait, on pensait en faire autre chose. Et vous voyez que Raymond, lui, déplace en quelque sorte la grande place niçoise, il va en faire une place royale. Avec un plan demi-circulaire, un petit peu comme la place des Victoires à Paris. Et mettre au milieu une statue équestre du bon roi Louis VII. C'est évident que la statue n'a jamais été inaugurée, mais n'aurait pas fait de vieux sens. Donc, mais vous pouvez remarquer une chose, c'est que l'actuelle gare vient de la place de la statue. Et malheureusement, il aurait peut-être fallu faire cette place royale qui aurait peut-être été un élément moteur de l'AMF actuel. Oui, cette place aurait été très, quand même très intéressante. Regardez sur le plan général, les Niçois ont très peu de choses pour se promener finalement. Alors, donc, voilà on est la situation lorsqu'éclate la Révolution. Eh bien, contrairement à ce qu'on dit souvent, la Révolution, l'époque, je mis dans le plan, l'époque mémorable de cette grande Révolution que j'ai tirée du portefeuille de Devias, en fait, la Révolution, elle a été active pour la Romanité. Elle s'est référée à la Romanité, elle s'est référée aux ancêtres. Si je prends ce texte de Villas à propos de la Maison Carrée, en 1790, donc date de création des départements, les affaires générales du département du Gard pourraient être réglées par ses administrateurs dans la Maison Carrée. Par cette inauguration nouvelle de la basilique, jadis consacrée au petit-fils d'Auguste, un monument d'adulation et de servitude sera transformé en un monument de patriotisme et de félicité. Alors, il parle par la suite, ça ne marquera jamais, aux yeux des habitants de la contrée, l'époque mémorable de cette grande révolution qui, par sa vaste influence sur toutes les nations, sera peut-être appelée par la postérité l'ère française. La fin de son nom, sa lettre qui est écrite là. Aux députés, l'ère française. Une ère française qui succéderait à l'ère romaine, à l'ère d'Auguste, succéderait même à l'ère de Périclès, les grandes ères de l'humanité. Et c'est là-dedans que Villas voulait inscrire, bien sûr, la Révolution française, et la Maison Carrée aurait servi essentiellement, qu'est-ce que je vais montrer, bon, c'est pas mal, aurait montré la romanité comme fer de lance, on peut dire, de la civilisation. Eh bien, la Maison Carrée est bien utilisée. Hein. Ce sera d'abord, justement, le directeur du département, puis sous Napoléon, ce sera aussi la préfecture. Donc, la Maison Carrée sera toujours utilisée. Les arènes, maintenant, eh bien, il faut les dégager d'après le plan Raymond, et les révolutionnaires y pensent sérieusement. Hein. En 1792, déjà, il y a un projet de faire une promenade. Ouvrir la galerie inférieure de l'amphithéâtre, vous savez, qui est complètement constituée de maisons particulières, hein, donc démolir cette maison particulière, en faire une promenade abritée à l'été du soleil et à l'été de la pluie. Ouvrir la galerie inférieure de l'amphithéâtre afin d'y pratiquer une promenade, elle serait unique dans le monde. Alors, vous voyez, tout à l'heure, l'ère française, etc., elle serait unique dans le monde, qui réunira en plus haut degré l'utile à l'agréable. Hein, l'utile à l'agréable. Et alors, bien sûr, en l'an 3, on pense utiliser les arènes pour en faire le cadre des fêtes, les fêtes révolutionnaires. Tout y est. On est sous la voûte des cieux. Toujours les fêtes révolutionnaires se passent en plein air, sous la voûte du ciel. On a un peu envie de soldats, ce qui fait que l'on Donc la scène se passe en milieu et au milieu de la foule qui se regardera en même temps qu'elle regardera ce qui se passe. Au niveau de l'hôtel, par exemple, l'hôtel, pensez à la fête de la Fédération à Paris en 1790. Donc, on pense faire ce type de fête. Et malheureusement, bien sûr, oui, ce qui manque, la France est en guerre extérieure, guerre intérieure, ça coûte très cher une guerre. Donc, il est bien évident que l'on ne peut pas déblayer, faire raser un quartier pour faire une salle de spectacle. Alors, quand même, un signe de romanité évidente, deux signes encore de romanité évidente, c'est bien entendu la transformation des prénoms, enfin l'apparition de nouveaux prénoms. Alors là, vous les avez ici, vous avez le temps de prendre des sens, et malheureusement, ça sort très mal, c'est un peu palichon. Si l'on regarde l'Antiquité, regardez les héros d'Antiquité, regardez la colonne, il y a quand même une trentaine de noms de héros de l'Antiquité, exactement 31 références. Mais il y a plusieurs, comme César et la Bête Sévère, est en tête du top 10, du top 14. Regardez, il y a 20 occurrences de César. Regardez également Scipion Brutus, qui sont les trio, on peut dire, gagnants des héros de l'Antiquité. Regardez, donc, par comparaison, il y a Mara. C'est Mara. Seul Mara peut lutter, on peut dire, contre les héros d'Antiquité, qui a la dragée haute aux héros d'Antiquité. Alors, et puis, bon, bien sûr, vous avez, ça concerne l'Antiquité, c'est la nature, hein, chou, charme, roquette, etc. Vous pouvez prendre comme ça des noms pour le petit dernier, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, évidemment, pourquoi ce succès anime des prénoms d'Antiquité? Tout d'abord, premièrement, il y avait déjà des Scipions et des Césars en deuxième prénom, un genre César, pardon. Donc il n'y a rien de nouveau. Là, il y a des voir, on a d'autres, ces prénoms romains. Mais notez une chose, c'est que le prénom romain est quand même plus utile, plus facile à utiliser. Hein. César mange la soupe, hein. Ou Brutus dort. Hein. C'est quand même mieux que Asperge, on n'est pas à finir en été le tyrannie. Hein. Ou alors, je ne sais pas, Platane sort de sous Platane, ça va tomber du mal. Hein. Là, on en plaît, il y a des sous. Hein. Et bien évident que pour une meilleure famille, le prénom romain pouvait être le plus efficace, finalement. Mais notez tout de suite que ça ne représente que 10% à tous ces prénoms. Alors sur deux ans, j'ai vu ça sur deux ans, ça ne représente que 10%, que ça représente, ça ne représente que, comme vous voulez, 10% de l'ensemble des prénoms. Il est bien évident que les prénoms, si vous regardez les registres de naissance de cette époque-là, les prénoms en majorité, c'est Louis, hein, c'est Marie, hein, Marie et Louis, et puis j'ai même trouvé en 793 une Marie-Antoinette, ce qui est quand même assez courageux. Alors, on va en tirer trois conclusions. Un, le père de famille est peut-être un homme très courageux d'aller déclarer une petite Marie-Antoinette à ce moment-là. Deux, l'officier municipal peut être un homme très courageux d'enregistrer une petite Marie-Antoinette, ça peut lui jouer des tours dans sa carrière, dans même dans sa tête. Et trois, la terreur avait existé, bien sûr, mais elle n'était pas complète totalitaire. Il y avait quand même une certaine marge de la vie privée. Alors, un exemple que je peux vous donner qui est très caractéristique. L'exemple de la famille Crémieux. En 1411, en 2, David Crémieux, avec sa femme Rachel, née Carcassonne, va déclarer un petit Isaac Brutus. Hein, vous voyez un petit peu, justement, comment pouvaient être intégrés les prénoms de l'Antiquité. On ne renonce pas aux prénoms religieux, hein, et on met en deuxièmement le prénom, donc Brutus. On voit là tout de suite que les Crémieux étaient des personnes quand même engagées, des républicains convaincus et des républicains cultivés. La preuve en est que 200 ans plus tard, je peux vous annoncer la naissance d'une petite sœur, hein, qui s'appelait Julie Égalité. Hein, pour une fille, Égalité, vous voyez, je m'en fie. C'était la famille Crémieux, pensait quand même à l'émancipation de la femme, c'est-à-dire à la femme tenant son rôle, à Égalité, ça dit bien ce que ça veut dire. Mais là, vous voyez, vous avez quelqu'un, vous avez un exemple réellement extrême, vous savez, extrême. Alors, malheureusement, alors, qui donne le prénom? C'est pas tout un père. C'est l'Antiquité, le père donne le prénom dans 70% des cas. Dans les autres cas, c'est pour 56% l'officier municipal ou le juge de paix qui donne le prénom. Parce que ce sont soit des enfants trouvés, soit des filles mineures, hein, des filles, c'est des mères célibataires. Et là, si on parle, on prend le chou, on avait, et un autre, un roquet du même genre. Alors, autre signe d'antiquité utilisé par la Révolution française, ce sont les fêtes, le nom des fêtes. Il faut vous dire que chaque fête donnait lieu à une énorme construction de charpente. Hein. On refaisait des obélisques, on refaisait des colonnades, carrément le même temple. Par exemple, la distribution des prix de l'école centrale du Gard, à l'intérieur du cloître des Jésuites, hein, pourtant, on a un cadre magnifique. Hein. Et bien, on construit un temple antique avec une belle statue de la renommée hein, qui chapeaute. Vous voyez, on n'hésite pas donc à reconstruire l'antiquité. Alors, si on regarde maintenant la pratique du serment, on pensait au serment des Horaces et des Curiades, des Horaces, pardon, au serment des Horaces, peut-être. Le serment est une pratique très courante, hein, notamment dans l'armée. Alors, le serment se passait assez souvent sur l'esplanade, mais il se passait très souvent aussi à la fontaine, hein, devant la fontaine de Nîmes, c'est-à-dire devant les Mosus. On prêtait serment devant les Mosus. Il y avait un retour, si vous voulez, aux sources de Calvédia, hein, mais on utilisait ça dans l'optique d'un combat révolutionnaire. Eh bien, on peut voir également le cortège, l'itinéraire tout d'abord. On a vu ça en dernier, je ne vais pas insister là. L'itinéraire, je rappelle, l'itinéraire de la fête de l'être suprême passait par à côté de la fontaine, près de la fontaine, devant la maison carrée, autour de l'amphithéâtre. Hein. Vous voyez la référence à l'antique pour célébrer la gloire de l'être suprême. Mais notez également le cortège, avec une alternance, enfin, une sorte de cortège comme une panathénée, hein, mais qui est axée sur les âges de la vie, avec bien sûr les militaires. Mais aussi des jeunes femmes, des jeunes filles en robe, en tunique à la romaine. Hein. Et j'entends bien sûr des cantiques révolutionnaires. Notez également des inscriptions sur les chars qui font référence très souvent à la vertu des Romains, à l'Antiquité, aux Spartiates, etc. Enfin, les discours, toujours analogues à la fête. Pensez que j'ai un discours, un excellent discours de distribution des prix d'un professeur à l'école centrale. Les mâles, les grands hommes qui ont illustré ces lieux, Rome a reçu des maîtres célèbres pour l'éloquence et des empereurs distingués pour leur vertu. Et alors, maintenant, Nîmes est venu le professeur de Rome, hein, qui est professeur d'éloquence hein, et maître célèbre pour l'éloquence, et des empereurs distingués, il n'y en a qu'un seul, hein, qui était petit-fils d'un Nîmois, c'est Antonin. Comme empereur vertueux, celui-là que je n'ai pas des empereurs. Hein. Il a élevé le don, lui, de l'extrapolation. Mais notez donc que tout ça, hein, tout ce que vous venez de dire, montre qu'il y a une certaine. Ce que Karl Marx a décrit comme étant la bourgeoisie se drape, hein, se drape dans les habits de Romain, hein, en habits de Romain, en oripeaux de Romain. Alors pourquoi elle fait ça, la bourgeoisie? Bon, est-ce que c'est pour se déguiser? Certainement pas. Hein. C'est en fait pour affirmer hein, une nouvelle loi, hein, un nouveau code, le code sur Napoléon. Hein, une belle ensemble de lois, ne pas oublier qu'au moment des cahiers d'oléances aux États généraux, la population réclame essentiellement un rapprochement de la justice et des lois sur le royaume. Eh bien, la référence pour les lois, bien entendu, c'est Rome. Hein. Et donc, vous avez ce retour aux habits de Romain. Hein, dont parlait Marx. Mais alors justement, on va aller sur une romanité flamboyante. Mais quand même, l'autre romanité, la romanité rayonnante de l'époque des Lumières, va continuer. Hein. C'est-à-dire au XIXe siècle, ça va être vraiment l'apogée de la Rome française. Tout d'abord, le dégagement des arènes. Je m'excuse, je suis un peu long sur cette courbe. Arènes, donc je ne dirai pas le texte, le dégagement des arènes prévu, donc dès le plan Raymond, confirmé par la Révolution française, eh bien, il va être efficace avec l'administration napoléonienne qui suit là encore, hein, l'administration napoléonienne va suivre les idées du conseil municipal de Nîmes. Hein. Donc le premier texte, c'est 1809. Vous constatez qu'on est toujours dans le monde des Lumières. Hein. Toute l'Europe éclairée. Hein. Les rues de toute l'Europe éclairées. Et regardez les soins actifs et éclairés de M. le préfet. Hein. Donc on est encore dans un univers des Lumières. Hein. Et alors, vous voyez par exemple qu'il y a une opposition entre embellissement, propreté, salubrité, donc c'est la lumière, et la trop longue barbarie hein, de ses habitants, ou que l'on prête à ses habitants. Eh bien, vous voyez aussi la référence aux autres, hein, ceux qui nous ont précédés, qui voulaient déjà dégager les arènes. Hein. Eh bien, donc, vous voyez, référence à l'odeur nationale et inversement, masure, hein, qui obstrue l'intérieur. En 1823, ça a complètement changé, pas complètement. En 1823, c'est la monarchie, c'est la restauration, et vous voyez que le conseil municipal a pris un peu de virage. Notez qu'il bon, s'attarde et dit regardez l'exécution de ce roi, il y a tous les jours plus urgent, hein, 1809, 1823, vous voyez le temps qu'il a fallu pour dégager. Eh bien, la référence, c'est l'embellissement. Hein, embellissement, et même il y a un autre passage que je vous ai pas mis, où il parle de la grandeur des Romains. Embellissement. Et puis, vous voyez aussi, l'aspect fondamental en 1803, c'est l'aspect sécuritaire. Hein. Ne pas oublier que les arènes étaient ce qu'on pourrait appeler maintenant, enfin, les arènes, c'était un quartier, vous l'avez tous dit. C'était un quartier sensible, on dirait maintenant. On dirait plus, c'était une zone de non-droit. Hein. Et la police n'allait pas se fourrer là-dedans, hein, comme ça. Donc, voyez, dans cette référence à la fêteur, on va venir. Et bien, c'est là-dedans, c'est avec ces idées-là que se sont dégagées finalement les arènes et qui ont donc servi, en quelque sorte, pas vraiment de corridor. Pour les corridors, vous savez, les corridors, il y en a une en 1860, les corridors espagnols, en 1873, si j'en ai marre, dans le courrier du Gard, il y a peut-être une ou deux autres avant, je n'en parlais plus, je ne suis pas spécialiste de corridors. Mais en fait, c'était plutôt des spectacles, un petit peu de cabaret, donc des jongleurs, des danseuses sur corde, des choses comme ça. Ou alors des courses cabaretaises, des courses à la cocarde, etc. Donc, dégagement des arènes pour le réutiliser. De même, on dégage la maison carrée. C'est tout le contour qui était occupé par les anciens couvents, par l'ancien bâtiment conventuel, par les masures, etc. On rase tout ça et on monte, on amène une maison carrée qui est comme vous le voyez actuellement. Mais vous voyez qu'il y a toute une génération de construction. Hein. Par exemple, vous avez la façade de l'hôpital général, c'est-à-dire là où on est tout de suite, hein, le lycée d'hôtel actuel. Façade de l'hôpital général, 1809-1813. Palais de justice, 1809, terminé, recommencé plutôt, reconstruit en 1836-46. La perspective d'Arrée Auguste qui est magnifique, on la trouve extraordinaire, cette perspective sur la maison carrée, avec tout pareil d'autres, les deux, les arcatures aveugles qui sont des rez-de-chaussée de ces bâtiments. La façade du théâtre, 1827, qui maintenant a été promenée sur une aire d'autoroute, hein, en 1827, elle a été conçue exactement pour être à côté de la maison carrée. Hein. Et bien donc, on voit cette sorte de domination de l'espace au XIXe siècle par une certaine bourgeoisie qui est active, hein, disons, de commerçants, de négociants, de gens qui participent à la révolution industrielle aussi également. Mais il y a une autre façon d'occuper l'espace, non seulement par l'architecture, mais aussi par la sculpture. Hein. Notez que va apparaître les grands pères fondateurs, c'est-à-dire d'une part Antonin et d'autre part Auguste. Tout d'abord, vous avez le premier, c'est Antonin. Hein. Antonin que l'on va mettre, alors que la dénomination n'apparaît pas encore, puisque lui est sur le jeune ministre, mais dans le décret municipal de 1824, Antonin n'est pas encore cité. Antonin va donner un tissoir, ce tissoir, qui qui était sur la place de l'ancien lavoir, maintenant le square Antonin, et on va faire cette statue d'Antonin sur ce square, ce qui est en 1864. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a sur le socle. Ce petit poème de Repoule. Le Nîmois est un demi romain, sa ville fut aussi la ville aux sept collines, un beau soleil qui luit sur les grandes ruines, et l'un de ses enfants se nommait Antonin. Vous irez le lire si vous voulez, en passant de François Antonin. Et si l'on passe de l'autre côté de la statue, sur le socle également, vous avez Sénacus Populus Rue Nemos Insis, ce qui rappelle le SPQR que l'on voit partout à Rome, Sénacus Populus Rue Nemos. Eh bien, voyez, avec ce socle, il y a en condensé toute la romanité, toute la mémoire romaine du Nîmois. Hein. Vous avez les collines, vous avez le soleil, hein, qui est absolument indispensable, et vous avez SPQR, une grande ruine. Hein. Là, on a un peu un condensé, en quelque sorte, de la romanité. L'autre père fondateur, c'est Auguste. Alors, la statue d'Auguste, qui est, je vous rappelle, dans la porte, l'Auguste est une porte d'arbre, hein, a donné lieu, vous savez, à la naissance d'une rumeur assez intéressante. Hein, parce que depuis que cette statue a été posée, c'était censé être un don de Mussolini, hein, Mussolini dans un grand journal, accordant cette statue au Nîmois. Eh bien, il a fallu attendre 2009 hein, pour voir le conservateur du musée, le conservateur de la. Qu'est-ce que je raconte ? Le conservateur des archives municipales, M. Caillot, qui a écrit un article intéressant de liberté. L'origine de cette statue de Auguste, c'est les Nîmois. Hein, c'est les Nîmois qui ont commandé en Italie, un fondeur italien, une statue pour poser justement, pour rappeler que Nîmes a été fondée par Auguste. Ça n'a rien à voir avec Mussolini. Et alors, je vais vous lire un bordereau de livraison, mais la lettre qui accompagnait la livraison de la statue, ou qui annonçait plutôt la livraison de la statue. Le fondeur italien, je vous traduis, cette année. Le métal est un vrai bronze de canon, et la statue a été coulée en un seul morceau. Vous aurez ainsi un travail de tout premier ordre, et qui devrait durer des millénaires, non, écoutez bien. D'autant plus que les barbares, nous en sommes confiants, ne viendront plus ni dans votre belle France, ni dans notre chère Italie. 1934, Mussolini est encore fréquentable. Hein. 6 ans plus tard, les barbares avaient un impérieux désir de rencontrer la belle France, et en 1943, bien sûr, aller un peu remonter les bretelles à la chère Italie. Mais n'empêche que, donc, tout ça vient à cette histoire de don du fascisme italien, ça vient de ce que Mussolini, effectivement, lui entreprend des fouilles à Rome, à cette époque-là, sa fameuse bataille de la Romanité, il faut oublier ça. Et puis alors, elle est inaugurée le 11 novembre, la statue d'Auguste est inaugurée le 11 novembre 39. L'Italie n'est pas en guerre contre la France encore. Hein. Alors, 11 novembre 39, le consul italien est invité, mais à titre personnel, hein, et on se demande, ça nous rappelle peut-être quelque chose. Hein. Et bien oui. Donc c'est quand même qu'un an plus tard que Mussolini rompra, tout au moins un an plus tard que Mussolini rompra avec le cousinage et volera d'un pub de sa chère cousine. Hein. Alors, donc, mais vous voyez que la rumeur a persisté un peu à Nîmes hein, pendant environ 60 ans. Hein, du cadeau, canon empoisonné de Mussolini, etc. Bon. Et bien, autre chose, ce sont les dénominations des rues. Hein. Les dénominations des rues, et vous voyez que, n'entrons pas dans les détails, alors, c'est une pratique qui a été inaugurée, on peut dire, en 1824, par la municipalité de Nîmes, hein, qui avait fait des quartiers, par quartier, des noms cohérents, hein, dans le sens que si on voulait dans une rue qui avait un nom romain, on savait où c'était précisément. Vous voyez que par exemple, ça a été repris par la municipalité Jourdan au moment de la. Je pense que c'est Jourdan, je crois. Au moment de la. ZUP. Pardon ? C'est la construction des villes. On a repris donc justement. Alors là, vous voyez plutôt des Grecs. Enfin, vous comprenez que les Grecs font partie de la romanité. Vous avez Thalès, vous avez. simplement, de crise. Hein. Et alors donc, en fait, c'était très critiqué au XIXe siècle par le courrier du Gard en 1858. Je vous laisse lire le texte. Enfin, ce courrier du Gard insiste sur le fait que on exagère en fond avec tous ces noms de Romains. Hein. Bon, il vous dit, passe encore pour Antonin, pour Auguste, pour Trajan, mais enfin, le reste, ça ne dit rien. Donc, il accuse, enfin, le courrier du Gard accuse en quelque sorte la municipalité de Nîmes, une sorte de cuistrerie, hein, de jeu avec ces noms de l'empereur et tous ces noms de Romains qui disent rien, finalement, c'est vrai qu'ils disent rien, là, c'est Nîmois, hein, et qui auraient aimé garder les noms. Les vieux noms locaux, pensez à la même chose maintenant. Hein. Qu'est-ce que Camus, j'en excuse pour Camus, qu'est-ce que Camus avoir la clim, alors que mon le monde lycée Montori, mon son Rélux, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, sur la liste. Hein. Anyway, il y a encore une dame, et Camus, je ne sais pas, ça fait, mais ça a passé beaucoup de millions d'années à Nîmes, ça m'étonnerait. Alors, donc, là, il y a une limite, en quelque sorte, à la romanisation de l'espace. Et dernier point, c'est qu'il y a aussi une romanisation des esprits, hein. C'est essentiellement par les sociétés savantes, bon, je ne développerai pas énormément, mais regardez ce petit graphique que j'ai fait à partir des communications, hein, et des textes qui ont été édités par l'Académie de Nîmes au XIXe siècle. Notez tout de suite au XIXe siècle, parce que l'Académie de Nîmes au XXe siècle n'a pas publié énormément de choses impérissables, je dirais. Honnêtement, je ne sais pas si des académiciens dans la salle, j'espère qu'il y en a personne pour discuter tout à l'heure. Vous voyez que la courbe est très éloquente. Il y a un sommet de romanité, on peut dire, à partir de 1854, hein, c'est très peu lisible, 56 ans, mais ce décrochage, là, ce sommet, cette courbe de Gauss, hein, pendant le Second Empire, qui se poursuit un petit peu jusqu'au début de la Troisième République, et puis vous voyez qu'à la fin, comme au début, bon, ça tombe un petit peu, hein, une espèce d'étiage en quelque sorte, à partir de 1905, et il faut dire que maintenant, en Académie de Nîmes, c'est vraiment marginal quand elle s'occupe sérieusement, disons, de la réalité, là, finalement. Par contre, il faudrait signaler une naissance après la Première Guerre mondiale, en 1920, c'est l'école antique. Alors, l'école antique, là encore, et l'initiative en vient au délégué à l'instruction de la municipalité, hein, en 1917, et donc, le peu de 1917, c'est la guerre, et en 1920, quand la guerre est terminée, on peut lancer cette fameuse école antique. Alors qu'il sera beaucoup plus de type universitaire, finalement. Elle a lieu en deux séquences, l'hiver, l'autre l'été. L'été, il y a des excursions. Les conférences sont données par des professeurs, notamment des professeurs de Montpellier. Elle s'adresse explicitement aux gens qui s'intéressent aux antiques et à ceux qui doivent s'inscrire dedans, c'est-à-dire essentiellement donc les étudiants beaux-arts, les lycéens même. Et même on a 3 des pouces, l'école antique demande, je parle d'entre deux mêmes, hein, l'école antique demande des subventions à la municipalité, tout à l'heure on parlait de subventions à la municipalité, l'école antique demande des subventions à la municipalité, au conseil général, etc. Hein, donc sinon, ça suffit à cette époque. Et donc, elle fonctionne, vous voyez, de manière un peu universitaire. Et elle met, il faut faire une nuance, Rome ne compte que pour un tiers. Hein, c'est préhistoire contre histoire, Rome, Moyen-Âge. Hein, avec, on commence, hein, c'est cyclique. Alors, ce qui serait intéressant à voir, c'est qui fréquentait cette école antique. Au début, la première séance de l'école antique, il y a eu des étudiants tchécoslovaques. 1920, Tchécoslovaquie, la Tchécoslovaquie vient d'exister. On note une chose, la Tchécoslovaquie, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un État multinational qui est à lui-même concentré en Europe. Les Tchèques, les Slovaques, les Lituaniens, des Polonais, des Allemands, des Hongrois et des Gitans. Hein. Vous avez une sorte de microcosme qui reproduit un petit petit peu l'Europe. Et l'année suivante, ce sont des Belges, des étudiants belges, des professeurs belges qui viennent. La Belgique, c'est encore également un État multinational, flamand, wallon et germanophone. Donc, voyez que ça n'est pas en fait si gratuit que ça. Il y a dans cette naissance de cette école antique, il y a également une sorte d'affirmation à dans une Europe future. Donc, on utilise l'Antiquité, on utilise la mémoire, on utilise l'histoire, mais pour essayer d'aller vers autre chose, vers une Europe nouvelle. Et bien, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Qu'est-ce qui reste de tout simplement? Et encore, on a encore besoin de Romains. Bon. Tout à l'heure, son architecture, c'est ce qui reste le plus, hein, c'est ce qui est le plus visible et tout. Donc, il y a eu quand même ce passage de relais de la romanité à l'hispanité, avec la feria, avec les corridas, à partir surtout de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. Après également le fait qu'il y avait plus possibilité d'aller en Espagne à cause de Franco, et les Français, donc, allaient quand même de temps en temps, à partir des années 60, ils vont de temps en temps en Espagne. Il y a aussi donc, il y a les républicains espagnols, les fils de républicains espagnols, c'est l'ami. Mais également les Oranais qui viennent à partir de 62. Et donc il y a toute une hispanité limoise qui va bouillonner en quelque sorte au moment des années 60-70. Mais il y a ce passage de relais en quelque sorte qui va de la romanité à l'hispanité. Même si maintenant il y a moins, on sent moins de présence espagnole. Beaucoup sont rentrés et on sent moins cette présence espagnole. Reste la comédie, bien entendu. Alors, notez aussi qu'on va volontiers se mettre à l'ombre des ruines, ces fameuses ruines dont on parlait tout à l'heure. On va récemment se donner rendez-vous près des ruines romaines, finalement. Regardez où les gens vont prendre un café. Regardez, par exemple, ce qui se passe derrière la maison carrée. C'est assez vivant. Et bien, c'est fort. Le forum n'était plus près de. Était à la place de la Révolution, en fait. Bon. Et puis devant la maison carrée. Enfin, il y avait quand même ce péricile, donc les gens venaient, discutaient, etc. Eh bien, ça se fait encore. On va encore se donner des rendez-vous à côté des arènes, comme du temps des Romains. Où vont les jeunes mariés, le jour où ils prêtent serment, de vie commune jusqu'à la fin des temps, eh bien, c'est, ils vont se photographier devant la présidence de Nérosus. Le passage de la fontaine est ainsi obligatoire. Même s'il s'agit de gens qui viennent d'Afrique du Nord, ce sont jamais que nos cousins de Volubilis, de Tipaza ou de Engen. Ils sont moins que nous. Eh bien, vous avez quand même ces permanences-là. Autre chose, alors par contre, la grande catastrophe avec un grand C, c'est l'épigraphie. Nîmes, avec la collection la plus importante de France d'épigraphie latine et gallo-grecque, eh bien, elle est quand même assez peu mise en valeur, malgré les efforts que fait le conservateur qu'il faut honorer, évidemment, dans notre état, passe un temps fou sur ces antiquités, mais on va faire des remarques catastrophiques sur. Notamment sur tout ce qui est seul dans le cloître. C'est pas passant dans le cloître qui ne sert strictement à rien. Là, c'est la romanité latine, la garantie. Et on a fait même la remarque, pourquoi faire un musée de la romanité puisqu'il y en a à Arles. Ça, c'était la remarque qui m'était faite ce soir quand vous étiez entendu aussi. Donc, là, ça m'amène à revenir sur la première photo. La photo du Midi Libre, les ruines romaines remontent à la surface. Eh bien, ça illustre bien justement le problème essentiel de la romanité à Nîmes. Lorsque la romanité rapporte de l'argent, les arènes, la tourmaline, la maison carrée, eh bien, on l'exploite et on le confie au privé. Ce sont des sociétés privées. Lorsque ça ne sert pas, lorsque ça sert aux enfants des écoles, eh bien, on enterre, on fait une belle sépulture, et bien entendu, comme ici c'est le royaume du Père Ubu, après avoir bien enterré la tour, c'était une tour magnifique, c'était une tour qui était exceptionnelle en France, après avoir bien enterré la tour, on redessine la tour dessus, c'est vraiment le royaume du Père Ubu, c'est l'argent de la terre, et la noble Gilliot, franchement, tout à l'heure on parle. parlait de l'UNESCO, maintenant on est chez Alfred Jarry. Oui. On a vu, vous allez dire qu'il y a quand même eu des précédents. Parce que le théâtre romain qui était situé au-dessus de. Enfin, dans Jean-Lafontaine, vous voyez, là où il y a cette espèce de pelouse qui est en demi-cercle, c'était le théâtre romain qui avait été mis au jour au XIXe siècle et qu'on en a rebouché. On n'a pas, on n'a quand même pas décidé dessus quand même. On n'a pas poussé la nécessité jusqu'à aller refaire le dessin de quelque chose qui a disparu. C'est déjà ça. Alors donc, ça poserait, je poserais en question, voilà, chez le débat, la question de la marchandisation de la réalité, quand on marchandise d'autres choses, on marchandise les vaches des taureaux, on marchandise aussi l'éducation, on marchandise la santé, on sait que ce qu'on peut marchandiser actuellement. Cycle plus de Léo, ce qui veut dire. Alors les lions sont en train de dormir. Alors je passe la parole au lion dévorant pour qu'il pose des questions, il se pose des questions les uns les autres.
Si vous me permettez un point sur le 19e siècle, sur la réception de l'Antiquité à Nîmes, sur le 19e siècle, je travaille sur le sujet. Il y a un contexte socio-culturel à Nîmes qui est tout à fait intéressant. Après, disons, les précurseurs du 16e siècle, les antiquaires de Paul Bourguma et, disons, les conseillers du 18e siècle, après la Révolution française, les antiquités entrent dans les musées après les confiscations révolutionnaires et la création de sociétés savantes qui amènent peu à peu une pression et une professionnalisation. À Nîmes, il y a un contexte avec l'Académie dont vous avez parlé, qui est ancienne, qui date donc de Louis XIV, et il y a un débat intellectuel intense à Nîmes autour de la romanité, et notamment autour de la maison gardée, la dédicace, ou Pelé, qui est un grand homme, disons, de l'archéologie nîmoise, il a sa statue de marbre au musée archéologique, soutient avec évidemment une certaine impétence du côté d'Antonin, dont vous avez parlé, à propos des vers de Reboul, que ce monument donc, date de l'époque antonine, ce qui est contesté par un autre érudit qui s'appelle Perrault, sur lequel je travaille actuellement. Et ce débat est très très intéressant parce qu'il y a un enjeu évidemment de professionnels qui veulent prendre des places, mais il y a aussi, disons, dans le milieu socioculturel nîmois, une alliance entre cette élite intellectuelle qui émerge et qui prend des places et une élite politique qui fonctionne ensemble. Et notamment, vous parliez donc de la statue d'Antonin, là encore, c'est une manipulation mémorielle parce que Antonin bon, est peut-être, comme vous l'avez dit, un petit-fils d'un Nîmois. C'est possible si on en croit, mais c'est très douteux aussi, l'histoire Auguste, qui est vraiment une référence biographique sérieuse. Mais les Nîmois ont envie de se la jouer avec ce Nîmois qu'ils adoptent comme l'un des leurs. Et c'est évidemment un contexte culturel qui est un peu ridicule sur le plan scientifique quand on le regarde dans le contexte du 19e siècle, mais qui reste encore aujourd'hui, avec cette statue d'Antonin qui est grotesque, avec toutes ces fariboles, disons, autour de l'Antonin nîmois. Et donc tout ce jeu culturel est intéressant. Au moment de l'érection de cette statue, c'est pas innocent. Dans les quartiers populaires, du côté de la placette, on se pose la question, mais pourquoi dépenser de l'argent pour un empereur romain? Au moment où on le fait, c'est pas neutre. Et il y a des échos de tout cela, par exemple à l'Académie. Il y a des bons académiciens dans le milieu bourgeois qui essaient d'expliquer qu'il faut faire ça, bien sûr, parce qu'Antonin, c'était un brave empereur qui était très gentil avec les catholiques. Donc il y a tout un contexte socio-culturel et politique qui est très intéressant au XIXe siècle. Alors, bien entendu, aujourd'hui, il y aurait énormément de choses à dire sur les manipulations mémorielles et les détournements, disons, commerciaux dont vous faisiez parler. Et notamment, bon, moi, je suis tout à fait hostile à quelque chose qui risque de se produire, c'est la restitution de la dédicace de la Maison Carrée sur son fronton, qui avait été refusée par Séguier lui-même, celui qui l'avait déchiffré, et par Léon Ménard lui-même, au moment où, en 1758, lorsqu'elle a été publiée la dissertation sur l'inscription de la Maison Carrée de Séguier, les consuls de Nîmes, comme peu des maires d'aujourd'hui, avaient envie de se la jouer en rétablissant ces lettres en bronze. Aujourd'hui, ce serait en résine, hein, peut-être un peu lumineuse même. Et donc, à l'époque, Séguier avait dit qu'il était hors de question, et il donnait des raisons tout à fait scientifiques, parce qu'il disait que c'était son opinion, mais ça n'était qu'une hypothèse. Voilà, je parle plus loin.
Ce qui peut illustrer aussi, c'est aussi la statue, la statue de Nîmes à l'Esplanade, avec. Normalement, il marche. Normalement. D'accord, je suis anormal.
Oui, il y a le groupe, justement, dans le problème de la connaissance, l'érection de la statue de Nîmes, le groupe sur l'Esplanade, qui est censé célébrer la victoire sur l'eau, hein, l'eau arrivant à Nîmes, l'eau potable, l'eau mer généreuse de l'agriculture et de l'industrie, également l'eau qui risque de faire des inondations. Et d'ailleurs, on pensait que cette statue donnerait, enfin, cette statue qui accueille les visiteurs qui viennent de la mer, accueillerait également l'eau. Et l'eau est venue 10 ans plus tard, elle est venue seulement après la guerre de 70. Il y a encore, il y a tout un message, il y a tout un tas de conflits, pas de conflits, mais tout un tas de débats politiques qui se mêlent aussi au débat archéologique aussi. Je vous remercie pour cette précision qui était sur le dynamisme, qui était très utile.
Il y avait 56% des enfants, des déclarations, enfin du choix des prénoms qui n'étaient pas faits par les pères parce que il n'y avait pas de père. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y avait 56% des naissances qui étaient...
De jeunes femmes, de mères célibataires. C'était quand même assez. On en voit, si vous regardez dans les registres de naissance de l'époque, peut-être que ça s'accroît justement au moment de la revolution, j'en sais rien. Mais il y avait quand même un certain pourcentage d'enfants naturels, selon c'est à l'époque les bâtards, etc. Je ne sais pas si c'est trop, mais il y avait quand même. Parce que ça, c'est l'attribution d'un prénom par l'officier municipal. Bon, c'est tout possible aussi que le père était peut-être absent à son gendarme, des choses comme ça. C'est ça aussi qui veut beaucoup. De quel ordre, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a un renseignement là-dessus sur la présence des enfants naturels, par exemple, au 18e, du 19e? Comment ça se fait
de l'ordre de
20-30% sur les régions. Je serais plutôt près de
30%
que 20, finalement.
Qui est accueilli dans les couvents.
Et qui est accueilli dans le couvent, l'hôpital général, qui échoue ici, très souvent. Et qui avait une vie d'ailleurs assez courte, finalement. Oui, mais c'était placé à la campagne. Avec une petite subvention, par exemple, sur ces régions, une petite subvention qui peut se rappeler les enfants du prince. Une petite subvention que l'on donnait aux paysans pour mieux l'exploiter. C'est assez dramatique. Mais par exemple, là je pense, hein, parce qu'on parlait du 19e siècle et de la romanisation, on peut dire, de l'espace public, je vais regarder Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, qui est actuellement bon, hein, à peu près la population commune, Aix-en-Provence, qui est quand même la ville thermale de la région des Romains, Aix-en-Provence n'a que trois noms, mais là il y a beaucoup moins de restes architecturaux à Aix-en-Provence. Mais il n'y a que trois noms de rue. Il y a Sextus, la rue Sextus, et puis Boulevard des Termes, je crois, ou Place des Termes, et la rue des Termes. Il n'y a vraiment que deux. Donc que deux, finalement, que deux signes de romanité, finalement, dans la dénomination des rues. Orange, là, je ne vais pas faire ça. Arles. Arles, justement, quand on y va à Arles, dans les rues et tout, il n'y a pas de. Alors que là, et après une autre conception de la normalité, beaucoup plus riche que lui, finalement, avec son fameux, avec son musée, et puis alors.
Il
n'y
a pas de
rue
de boulevard.
Non, il n'y a pas d'un petit bus ou d'un rue d'Antonin, un long bus. Il y a une conception à Nîmes un petit peu, disons, on montre, c'est plus. Il y a eu un article justement dans Midi Libre sur les deux romanités, je ne sais pas si vous l'avez su, si vous l'avez vu, qui compare la romanité de Nîmes et la romanité d'Arles. Arles fait le choix d'une romanité un peu scientifique, mais Arles a une romanité qui est reconnue sur le plan mondial, c'est-à-dire que Arles est inscrite au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, alors que Nîmes ne l'est pas. Et ne sera plus.
Elle rentre
dans les critères d'attribution. Et entre autres, justement, quand on parlait tout à l'heure du privé et de la marchandisation, c'est souvent reproché à Nîmes. Par exemple, d'après ce que j'ai lu l'article de Midi Libre, le fait que, par exemple, d'avoir transformé la maison carrée en salle de spectacle, en salle de cinéma, ça n'est pas très bien vu sur le plan de l'UNESCO. C'est pas mal la question de ça.
Avant même
la marchandisation.
Il y avait eu des demandes entre 1995 et 2001.
Ah bon, d'accord.
Ça n'avait pas
un petit problème. Et ça, c'est parce que moi, d'être encore maintenant. Alors, c'est comme une question de critères, finalement, au discours. Non, ce que je regrette, finalement, dans cette histoire de conception de la réalité, c'est qu'à Nîmes, l'épigraphie, on pourrait restituer toute la société romaine, depuis bon, le gladiateur, il y a un site fédéré d'un gladiateur, il y a un site fédéré d'un étudiant, hein, et puis bon, il y a c'est des gens comme ça, et on pourrait restituer toute la société, finalement, qu'avec les sites fédérés, en mettant en valeur, puis en traduisant, mais surtout en latin, hein, etc. Et en plus de ça, la démographie, qui a beaucoup de choses. Et ce serait intéressant quand même. Et il y a Nîmes aussi une richesse de mosaïque. Vous avez vu l'exposition qui est magnifique, il y a des mosaïques splendides à Nîmes. Mais il faudrait que ce soit dans un lieu qui soit agréable, assez vaste, agréable, avec une exploitation complémentaire, des conférences, des vidéos, des je ne sais pas quoi, qui n'est pas du tout fait. Oui. Ah, mais elle est très belle, très belle, vous allez venir. Et c'est simple, il y en a d'autres aussi. Mais justement, elles sont dispersées. Le musée de Nîmes a été construit autour de la mosaïque d'Ahmed, hein, pour mettre en valeur. Hein. Ça a été bien spécifié par la SRFM.
À propos du musée archéologique, le projet, il est tout à fait significatif que ce projet porte le nom de
musée de la romanité, ce qui est encore un détournement. Scientifique, parce que vous parliez tout à l'heure des inscriptions gallo-grecques qui sont exceptionnelles, que va-t-on faire? Bon, bon, c'est pas la romanité. Il y a aussi la période visigothique qui est documentée à Nîmes, et évidemment dans les réserves, on voit rien. Il y a des toits de d'autres éléments. Donc là encore, si vous voulez, il y a une façon de se jouer la romanité chez les édiles qui nous dictent la façon identitaire de concevoir notre mémoire. Et moi, je suis particulièrement remonté contre ça. Je fais un travail de recherche sur justement un contexte socioculturel des collections d'antiquités au début du 19e siècle, sur des collections qui étaient sorties de la mémoire nîmoise, et ça m'a donné tout à fait par hasard à trouver dans les archives ce contexte culturel qui donne évidemment des invariants qu'on retrouve aujourd'hui dans la même sottise, disons, héréditaire, et même, dirais, la sottise nîmoise globale. Hein, une vision mémorielle complètement. Et puis, il y a qu'à voir le succès de ces histoires de ligature. Cette débilité incroyable, ça marche, malheureusement. Bon, enfin, je ne vais pas monopoliser la parole.
Je suis entièrement d'accord avec vous, ça c'est l'aspect un peu pop-punker dans le défilé de légionnaires. Et puis, c'est très restrictif, finalement. Pour le Romain, c'est le gladiateur légionnaire, finalement. C'est, parce qu'on mise sur ce spectaculaire, on mise sur l'aspect un peu.
Je voulais juste apporter un petit témoignage, parce qu'en fait, moi je travaille dans le quartier de Valmont, donc on trouve la place Thalès, la place Pythagore, les noms qu'on avait l'archive, etc. Et comme c'est essentiellement les élèves que nous avons, c'est des enfants d'origine écrite, on travaille beaucoup sur, on parle, pour eux, ils habitent le quartier, mais ils n'habitent pas la ville de Nîmes, hein, c'est un gros problème chez nous, ils ne se reconnaissaient pas en tant que Nîmois, plus souvent, ils se reconnaissent plutôt comme du quartier. Donc nous, on travaille beaucoup justement sur on parle des noms de leurs bâtiments, parce que où j'habite Archimède, j'habite le Thalès, j'habite le Pythagore, j'habite le Pythagore. Donc on part de ces mots-là pour leur montrer que même si leur quartier est récent, parce qu'on parle souvent de travail sur le monde du quartier, et même si leur quartier est récent, il est ancré dans la ville. Et comme la période des Romains, ben, ils adorent, en plus, c'est quelque chose qui fascine les enfants, parce que nous, ce sont des pays qui sont quand même assez petits. On arrive bien, par ce biais-là, à faire un lien entre le Nîmes d'aujourd'hui, le Nîmes qui a été construit dans les années 60, et que nous habitons avec les bâtiments, etc., et la ville. Donc pour nous, c'est un pont qu'on peut faire dans leur quartier. Par contre, je ne savais pas du tout sur Montori, qui est le... Je ne savais pas du tout que c'était un mot... voilà, je savais pas. Donc comme le lycée de secteur, c'est Montori, je continuerai à dire Montori, en parenthèse.
Je me disais qu'on pouvait aussi rattacher cette résurgence de la mondanité du 19e à Nîmes, qui cherche à se retrouver sur la scène romaine, avec, je suis assez marrant dans tout ça, avec l'apparition du style néoclassique au 19e, parce qu'en fait, même dans les villes qui n'ont pas du tout d'origine romaine, on voit apparaître des colonnes, des chapiteaux, enfin, toute une architecture néoclassique. Donc c'est quelque chose qui est très prégnant au 19e en France, cette référence à Rome. Alors bon, et à l'Antiquité. Alors je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter à ça, mais d'une certaine façon, Nîmes se serait retourné vers justement sa mémoire vers les antiques et vers la mémoire romaine, mais peut-être que c'est le symptôme de quelque chose qui est développé en fait au 19e. Alors, ça c'est après la Révolution française, je suppose, hein, la rupture avec l'histoire chrétienne et la manière de renouer avec la cité antique. Enfin,
le bouquin en 1864, si vous me mémoire, Fustel de Coulanges, la cité antique. Cette vague de néoclassique et d'antiquité. Il y a aussi la vague des allégories au 19e.
Il y a aussi la vague des allégories. Alors, on quitte en disant en plus général la vague des allégories qui envahissent tout au 19e siècle. La réponse est donc en fait commencer par la statue de Nîmes, qui est une allégorie de la ville, la statue du printier, une statue donc allégorique, et cette mode, on le voit à Paris, on voit partout fleurir des allégories, l'allégorie du commerce, souvent en liaison avec la révolution industrielle, le commerce, le progrès, on recule un peu partout, c'est un dieu, enfin, il y a tout cet aspect de déité, de dieu, de déité qui envahit tout le langage architectural en particulier, sculptural au XIXe siècle.
Et on s'éloigne de Nîmes, mais ce qui est amusant, c'est que ça, on retrouve par exemple à New York, et où il y a dans tous les bâtiments qui ont été construits par Rockefeller, donc au XXe siècle, alors, il y a effectivement des bas-reliefs de style néoclassique romain qui représentent commerce et industrie. Et puis il y a la statue de Prométhée. En fait, Prométhée, on le retrouve partout dans New York. Donc c'est marrant parce qu'on retrouve aussi justement dans le Nouveau Monde cette référence. Là, c'est une référence prométhéenne, enfin bon. Commerce et industrie, je ne savais pas qu'il y en avait aussi en France, moi ça m'a frappé parce que vraiment, c'est un très très haut bas-relief sur.
C'est une justification qu'on se réfère à l'Antiquité, à tout son. Comment dire,
toute cette culture classique, on se réfère là pour se justifier finalement, pour dire qu'on est dans le bon droit, dans le bon chemin, avec mon Prométhée. Alors oui, souvent on reprend l'antique pour essayer de voir ce qui s'est actuellement quoi finalement. Alors, on fait pas, enfin, au XXe siècle, c'était ça encore. D'ailleurs, il y a des Américains faisant du néoclassique, du colonne, etc.
Les gratte-ciels eux-mêmes sont néoclassiques.
Oui.
On pourrait presque faire un lien aussi avec la notion de colonisation. Hein. Je pense que c'est la grande période de l'Antiquité et de Napoléon III, par exemple, Louis-Philippe, Napoléon III, ça correspond aussi, on justifie la colonisation par la civilisation qui est diffusée autour de nous généreusement. Il y a tout un tas de phénomènes d'images.
Thank you.
c'est plutôt une romanité à ce moment-là qui serait, comme disait monsieur, dévoyée finalement, bon, parce que c'est la romanité marchande.
Oui, qui n'est pas une connaissance.
Qui n'est pas une connaissance, qui est respectée, qui est des clichés. Mais surtout tenant du fait que ça a été fait en catimini, finalement, ça a été fait en tout cas dessus, quoi, il n'y a pas eu de consultation.
C'est nous qui allons le payer.
Ah, c'est je crois qu'on peut laisser les Romains reposer en paix, peut-être.